Connor Bedard a impressionné hein, dans son match. Je pense qu'il va connaître toute une saison. Les Blackhawks ont bien fait de l'entourer, mais surtout par un certain Taylor Hall.
Écoute, c'est toujours plus beau dans notre tête qu'en réalité. C'est souvent plus beau dans notre tête qu'en réalité. Puis je vois chaque année des organisations, des équipes ou des joueurs qui disent « Cette année, ça va être une année spéciale. On a tous les éléments en main. Tout est en place. On est plein de bonnes intentions. » Puis je te dirais que malheureusement, trop souvent, ça se réalise pas comme ça. Puis dans le cas des Blackhawks, ça va être très intéressant parce que les Blackhawks, on va en parler, là, ont investi massivement, ont été chercher quelques agents libres, veulent entourer Connor Bedard, mais tu sais, allez regarder là, combien de temps ça a pris à Sidney Crosby et Malkin et le temps et Fleury avant de gagner une Coupe cette année. Combien de temps ça va prendre à Connor McDavid? Là, je te parle de choix, de premier choix au total.
Mais ça a déjà pris.
Ça a pris, à...
ça a déjà pris pas mal plus de temps. Tu sais, Connor McDavid en est à quoi, là? Ça
il y a 27 ans. Ça fait 9 ans.
Ben, c'est ça. Ça fait déjà quelques années. Et Crosby, c'était 2009. Alors,
Crosby était repêché l'année de Craig Price, c'est 2005. Donc, on parle de quand
4
même
ans.
4 ans. Moi, je pense que c'est 4-5 ans pour que Bedard et son groupe deviennent menaçants. Puis, je suis pas convaincu que cette année, ça va être mieux que l'année passée. Mais ça s'improvise pas, Greg. On le sait, là. C'est, ça va dépendre de sa défensive. Moi, je suis pas impressionné par la défensive. Deux signatures importantes en défensive, Martinez et Brody. Brody, ils leur ont donné beaucoup d'argent, mais pas pour longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les gardiens de but, c'est pas encore exactement, là, clair qui va être le partant. Fait que ça va être intéressant. Puis Taylor Hall, c'est un joueur qu'on va regarder comme il faut parce que depuis quelques années, c'est pas le Taylor Hall qu'on a connu en 2017-2018 au New Jersey.
Non, ça c'est sûr. En même temps, j'aime beaucoup le noyau de jeunes qu'on a présentement à Chicago. Tu sais, oui, on parle de Bedard. On vient d'en ajouter un solide au dernier repêchage également. On avait déjà Kevin Korchinski qui est là. Tu sais, on bâtit un peu partout dans l'équipe, mais d'ajouter des vétérans. Tu sais, l'an dernier, déjà là, ce qu'on a fait en amenant Taylor Hall, en amenant aussi Corey Perry, ça a mal viré un peu là, mais quand même, je pense que on voulait ajouter du leadership dans le vestiaire sur la glace également, montrer le droit chemin à Connor Bedard, Foligno également. Alors là, je pense qu'on fait les bonnes choses pour entourer le joyau qu'on est allé repêcher.
Oui, c'est Nick Foligno et Taylor Hall qui ont été cherchés en 2023 de Boston. Foligno qui vient d'être nommé capitaine, c'est un bon choix, mais c'est intriguant comme choix, Greg. Foligno, il a 36 ans. Il va être là encore un an, deux ans, trois ans maximum, mais même, j'en doute. Pourquoi on ne l'a pas donné à Seth Jones, qui est le jeune vétéran de cette organisation-là, qu'on a été chercher à fort prix? C'est intriguant, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on se dit deux ans, tu sais, Foligno, et après ça, on donne le C à Bedard, puis on passe à côté de Seth Jones. Seth Jones qui, pour moi, a une carrière intéressante, mais un peu décevante par rapport aux attentes.
Ouais.
Ou pourquoi ne pas donner le C à Bedard tout de suite? On a vu plusieurs équipes faire ça. T'sais, McDavid a été nommé capitaine à un jeune âge chez Nick Crosby. Aussi, c'est la nouvelle tendance. Si c'est lui le leader de la franchise, pourquoi pas lui donner le C tout de suite?
Moi, s'il y en a une que je comprends pas, là, c'est un excellent bon point que t'amènes, Oli et Eric, les deux. Moi, je comprends pas comment t'es allé donner à Anaheim le C à Radko Gudas et non pas à Mason McTavish.
Ben oui.
Ouais. Pour avoir passé... T'sais, là, tu vas me dire que c'est très, très peu, là. Mais avoir parlé à plusieurs gens dans l'organisation des Ducks, tu vois déjà que Mason McTavish est le leader dans le vestiaire de cette équipe-là. Il va finir par... Est-ce que ça va être le meilleur attaquant de l'équipe? Je ne crois pas. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour le futur de l'organisation. Mais Radko Gudas avant McTavish, vraiment, là?
Mais les gars, on est tellement pressés de mettre des joueurs sur un piédestal tellement trop précis. Tu sais, oublie pas, le capitaine, c'est plus ce que c'était, là. Il y a plein de leaders dans cette équipe. Les vrais leaders, c'est les coachs. Les joueurs font plus affaire avec leur agent qu'avec les coachs, ou presque. Tu sais, c'est surévaluer un petit peu un capitaine. Ceci étant dit, ça a quand même une fonction que le capitaine répond plus souvent contrairement aux médias. Et pourquoi on est pressé? Pourquoi on serait pressé de le donner à Olivier Bédard? Attendons un an ou deux. Suzuki, Eric, est arrivé juste à point. Rappelle-toi, Suzuki, là, on parlait de Gallagher, on parlait d'Edmundston qui était encore à Montréal. Mais Suzuki, ça faisait plus qu'un an qu'il était à Montréal, là. Il était prêt, il était mature, il était là, on l'avait observé, on l'avait regardé comment il se comportait. Beaucoup trop tôt de donner ça à Bédard, pas parce que ça a fonctionné avec McDavid ou Crosby, que ça veut dire que ça va fonctionner avec Bédard ou avec McTavish à Anaheim, qui n'est pas tout à fait le même profil. Fait que oui, Boudin, c'est pas, ça n'aurait pas été mon choix, mais mieux vaut attendre que trop tôt.
J'aime ton point. On va revenir là-dessus dans deux minutes.
Le cancer. Elle recommençait l'entraînement. Ça les a comme motivés un peu de retourner faire du jogging, de bouger un peu. Donc, c'était une première pour les deux de faire un 10 km dans leur vie.
Kim, on le sait, t'es une personne avec le cœur gros comme le Québec. Et je pense qu'encore là, le Québec est pas assez gros pour toute la générosité et le cœur que tu as. Et ça, c'en est une autre preuve. Content que t'aies eu une bonne expérience hier aux 10 km. Et merci pour les dons que tu fais, pour cette générosité-là. Je suis certain que les gens étaient très, très heureux de te croiser hier sur le parcours du 10 km. C'était une belle journée pour ton entraînement aussi pour le futur de ta carrière. Mais ça, on s'en reparlera très, très bientôt.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci à toi, Kim. Bonne journée à toi aussi. Bye bye. Il y en a un autre qui est un pas pire coureur également. Puis c'est Éric Auziel. Comment ça va, Éric?
Hey, Greg, moi ça va bien. Est-ce que c'est la journée que John Harbaugh est congédié?
Je l'espère. Je l'espère. Écoute, j'ai donné une mauvaise information. Les policiers, les trois policiers que j'ai nommés courent le 42.2 en uniforme complet, mais ont quand même mis des souliers de course. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux autres et surtout pour leurs pieds parce que j'imagine pas le nombre d'ampoules qu'ils auraient pu avoir, mais quand même. Donc, merci à Claude qui m'a corrigé là-dessus. J'ai eu l'information il y a très, très, très peu de temps, mais quand même, tout un exploit.
Écoute, j'ai vu des gens courir pieds nus, moi, puis j'ai vu des gens courir avec toutes sortes de souliers puis de choses dans leurs pieds. Fait que tes trois collègues de policiers auraient pu courir avec leurs bottes, il aurait fallu qu'ils attaquent en avant du pied parce que, naturellement, là, donc ton dos est roulé et moins important, mais enfin, c'est technique, mais ça aurait pas été impossible, mais c'est mieux de courir avec des espadrilles en nu.
Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je me dis à chaque fois que je cours. Tu sais que je suis très, très prompt à avoir des blessures. Fait que j'espère que ça va bien se passer ce demi-là tantôt. Mais enfin, bref, assez parlé de course, mon cher Éric. Événement formidable pour Montréal, c'est aussi le marathon Beneva. Et toi, tu en sais quelque chose. Mais là, on est dans le dimanche NFL. Ça va être toute une journée. Ça, c'est certain. Tellement une semaine énigmatique la semaine passée, mais aussi, on reviendra sur la NFL, on a eu le début de la saison, des calendriers préparatoires qui s'est ouvert hier dans la Ligue nationale de hockey. On va commencer ensemble de jaser de quelques histoires à suivre un peu partout dans la Ligue nationale. Connor Bedard a impressionné hein, dans son match. Je pense qu'il va connaître toute une saison. Les Blackhawks ont bien fait de l'entourer, mais surtout par un certain Taylor Hall.
Écoute, c'est toujours plus beau dans notre tête qu'en réalité. C'est souvent plus beau dans notre tête qu'en réalité. Puis je vois chaque année des organisations, des équipes ou des joueurs qui disent « Cette année, ça va être une année spéciale. On a tous les éléments en main. Tout est en place. On est plein de bonnes intentions. » Puis je te dirais que malheureusement, trop souvent, ça se réalise pas comme ça. Puis dans le cas des Blackhawks, ça va être très intéressant parce que les Blackhawks, on va en parler là, ont investi massivement, ont été chercher quelques agents libres, veulent entourer Connor Bedard, mais tu sais, allez regarder là, combien de temps ça a pris à Sidney Crosby et Malkin et le temps et Fleury avant de gagner une Coupe Stanley. Combien de temps ça va prendre à Connor McDavid? Là, je te parle de choix, de premier choix au total. Là.
Mais ça a déjà pris pas mal plus de temps. Tu sais, Connor McDavid en est à quoi? Là,
il y a 27 ans, ça fait 9 ans.
Ben, c'est ça, ça fait déjà quelques années. Et Crosby, c'était 2009. Alors,
Crosby était repêché l'année de Carey Price, c'est 2005. Donc, on parle de quand 4 même ans. 4 ans. Moi, je pense que c'est 4-5 ans pour que Bédard et son groupe deviennent menaçants. Puis, je suis pas convaincu que cette année, ça va être mieux que l'année passée, mais ça s'improvise pas, Greg, on le sait, là. C'est, ça va dépendre de sa défensive. Moi, je suis pas impressionné par la défensive. Deux signatures importantes en défensive, Martinez et Brody. Brody, ils leur ont donné beaucoup d'argent, mais pas pour longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les gardiens de but, c'est pas encore exactement, là, clair qui va être le partant. Fait que ça va être intéressant. Puis Taylor Hall, c'est un joueur qu'on va regarder comme il faut parce que depuis quelques années, c'est pas le Taylor Hall qu'on a connu en 2017-2018 au New Jersey.
Non, ça c'est sûr. En même temps, j'aime beaucoup le noyau de jeunes qu'on a présentement à Chicago. Tu sais, oui, on parle de Bédard. On vient d'en ajouter un solide au dernier repêchage également. On avait déjà Kevin Korczynski qui est là. Tu sais, on bâtit un peu partout dans l'équipe, mais d'ajouter des vétérans. Tu sais, l'an dernier, déjà là, ce qu'on a fait en amenant Taylor Hall, en amenant aussi Corey Perry, ça a mal viré un peu là, mais quand même, je pense que on voulait ajouter du leadership dans le vestiaire, sur la glace également, montrer le droit chemin à Connor Bédard, Foligno également. Alors là, je pense qu'on fait les bonnes choses pour entourer le joyau qu'on est allé repêcher.
Ouais, c'est Nick Foligno et Taylor Hall qui ont été cherchés en 2023 de Boston. Foligno qui vient d'être nommé capitaine, c'est un bon choix, mais c'est intriguant comme choix, Greg. Foligno, il a 36 ans. Il va être là encore un an, deux ans, trois ans maximum, et même, j'en doute. Pourquoi on ne l'a pas donné à Seth Jones, qui est le jeune vétéran de cette organisation-là, qu'on a été chercher à fort prix? C'est intriguant, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on se dit deux ans, tu sais, Foligno, et après ça, on donne le C à Bédard, puis on passe à côté de Seth Jones. Seth Jones qui, pour moi, a une carrière intéressante, mais un peu décevante par rapport aux attentes.
Ouais.
Ou pourquoi ne pas donner le C à Bédard tout de suite? On a vu plusieurs équipes faire ça. T'sais, McDavid a été nommé capitaine à un jeune âge chez Nick Crosby. Aussi, c'est la nouvelle tendance. Si c'est lui le leader de la franchise, pourquoi pas lui donner le C tout de suite?
Moi, s'il y en a une que je comprends pas, là, c'est un excellent bon point que t'amènes, Oli et Eric, les deux. Moi, je comprends pas comment t'es allé donner à Anaheim le C à Radko Gudas et non pas à Mason McTavish.
Ben oui.
Ouais. Pour avoir passé... Tu sais, là, tu vas me dire que c'est très, très peu, là. Mais avoir parlé à plusieurs gens dans l'organisation des Ducks, tu vois déjà que Mason McTavish est le leader dans le vestiaire de cette équipe-là. Il va finir par... Est-ce que ça va être le meilleur attaquant de l'équipe? Je ne crois pas. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour le futur de l'organisation. Mais Radko Gudas, avant McTavish, vraiment, là?
Mais les gars, on est tellement pressés de mettre des joueurs sur un piédestal tellement trop précis. Tu sais, oublie pas, le capitaine, c'est plus ce que c'était, là. Il y a plein de leaders dans cette équipe. Les vrais leaders, c'est les coachs. Les joueurs font plus affaire avec leur agent qu'avec les coachs, ou presque. Tu sais, c'est surévalué un petit peu un capitaine. Ceci étant dit, ça a quand même une fonction que le capitaine répond plus souvent contrairement aux médias. Et pourquoi on est pressé? Pourquoi on serait pressé de le donner à Olivier Bédard? Attendons un an ou deux. Suzuki, Eric, est arrivé juste à point. Rappelle-toi, Suzuki, là, on parlait de Gallagher, on parlait d'Edmundston qui était encore à Montréal. Mais Suzuki, ça faisait plus qu'un an qu'il était à Montréal, là. Il était prêt, il était mature, il était là, on l'avait observé, on l'avait regardé comment il se comportait. Beaucoup trop tôt de donner ça à Bédard. Pas parce que ça a fonctionné avec McDavid ou Crosby que ça veut dire que ça va fonctionner avec Bédard ou avec McTavish à Anaheim, qui n'est pas tout à fait le même profil. Fait que oui, Eric, ça aurait pas été mon choix, mais mieux vaut attendre que trop tôt.
T'en penses quoi, toi, Eric, de ces contrats-là qu'on signe? Dylan Gunter, quoi, 76 matchs dans la Ligue nationale de hockey en carrière. Déjà, un contrat de plusieurs saisons, beaucoup de millions. On pourrait mettre Juraj Slafkovský également dans cette conversation-là. Également, tu parles des jeunes, t'as amené Connor Bédard, on les entoure avec des vétérans, tu nous parlais de Taylor Hall aussi. Mais de plus en plus, on est rapide au niveau des organisations pour signer des joueurs en faisant un gamble. T'sais, on se dit, hey, on va sauver de l'argent, là, on est satisfait de ce qu'on a vu très rapidement. Mais ça reste que c'est un gamble pareil, là.
C'est des gros risques. Puis oui, il y a toujours des risques calculés. Moi, je suis pas un partisan de cette façon de faire. T'as les deux extrêmes. T'as la NFL, ou t'appartiens à l'équipe pendant 5 ans, enfin, les 4 premières années, c'est ton contrat de recrue, la 5e, c'est une année d'option. Ça, c'est l'être extrême. Puis, t'as maintenant, c'est la tendance dans le hockey, les jeunes joueurs, à peine une saison dans la ligue, on leur donne des gros montants. Si on est dans les deux extrêmes, j'aime pas ça, j'aime ni l'un ni l'autre, j'aimerais entre les deux. Je pense qu'après 3 ans, t'as une bonne idée du type de personnalité que le joueur est, et le joueur a mérité, sa récompense, entre guillemets. Là, présentement, là, ils ont même pas à travailler si fort que ça, un an à peine, puis on leur donne la récompense. Puis tu sais, j'en parle souvent, Greg, autant dans le domaine sportif, le domaine politique, le domaine, peu importe des affaires, ou le domaine artistique, j'ai été témoin. Parfois, trop souvent, la célébrité, la richesse, le pouvoir rapide, ça déséquilibre. Puis on sait pas comment l'athlète va réagir, comment l'artiste va réagir, puis on le voit, puis plusieurs années après, on dit, on comprend pas. Ben oui, mais va revoir, là, à quel moment on t'a donné la cagnotte, le gros magot, puis à quel moment tout ton entourage autour de toi dit « Hey, t'es bon, c'est le fun. » Puis là, t'as un pouvoir, puis tu travailles moins fort. Fait que je te dis pas que ça va être le cas dans les contrats qui ont été donnés depuis quelques mois, mais je dis qu'il y a un gros risque. Puis c'est quoi? Oui, je comprends les nuances du cap salarial, puis ce qui s'en vient. Mais si ça marche pas, qui va être congédié? Ça va pas être le joueur, ça va pas être l'agent, ça va être le coach, parce que le GM puis le propriétaire, ils ont pris des décisions hâtives, selon moi. Moi, j'aime pas ça.
Est-ce qu'il y a un changement dans la lutte au pouvoir, tu sais, qu'on a vu, par exemple, dans les derniers lockouts qu'on a eu dans la Ligue nationale de hockey, et même, tu sais, des conflits de travail, il y a toujours cette négociation-là entre les propriétaires et les joueurs aussi. T'sais, on se pose la question, les joueurs trouvent qu'ils font pas assez d'argent, pas assez de revenus sur ce partage-là, alors que les ligues continuent d'engranger des millions. La Ligue nationale de hockey, bon, tant mieux, le cap monte, mais est-ce que ça se reflète tant que ça dans le portefeuille des joueurs? Est-ce que t'sais, les propriétaires essayent encore de sauver des sous en faisant des contrats comme ça, ou c'est plus les joueurs qui, avec les nouvelles tendances, là, t'sais, on le voit dans la NFL, là, les grèves qu'on a présentement, les joueurs, non, moi je me présente pas, j'ai pas de contrat, je veux renégocier mon contrat, je suis pas content. Ou dans la NBA, on dit non, moi tu m'échanges à telle place, et en bon français, deal with it. Là, t'sais, tu comprends ce que je veux dire?
Ben, moi, je pense que ça a toujours existé. C'est l'offre et la demande. Puis présentement, ben, je veux dire, l'athlète est en position de pouvoir, puis les propriétaires veulent continuer à faire de l'argent. Regarde Jerry Jones, là. Son organisation, son équipe, sa franchise vaut au-dessus de 10 milliards de dollars, potentiellement, virtuellement. Donc, on veut tous faire de l'argent. Les athlètes, moi, je trouve qu'ils méritent l'argent qu'ils reçoivent. Sauf que dans le cas des jeunes joueurs, c'est un peu tôt, je trouve. Mais c'est dans le... dans la convention collective, c'est là que ça a été négocié. Mais allons voir, tu sais, Slafkovski, ça fait 3 ans maintenant qu'il est avec l'organisation. Kent Hughes, Gorton l'a observé, ont regardé comment il se comporte. Puis ils sont peut-être dit, écoute, ce gars-là, là, il a un bon entourage, il a une bonne attitude, ça va pas y monter à la tête. On lui donne parce que on doit gérer. Là, maintenant, là, on parle de peu importe le joueur, puis il faut aussi parler de l'équipe et l'espace sur la masse salariale. Ça vient avec maintenant. On regarde les stats, puis on regarde combien qui coûte, puis on regarde combien qui nous reste à dépenser. Fait que c'est ça la nouvelle réalité du sport maintenant.
Ouais, et tu l'as dit, de plus en plus jeune, on signe des contrats, mais de plus en plus jeune aussi, on s'affirme, notamment dans la Ligue nationale de hockey, tu sais. Pour être nommé deux noms, par exemple, Rutger McGroarty et Cutter Gauthier.
Ouais.
Tu sais, non, moi, je joue pas ici. Ça me tente
pas. Attends. Ça a toujours existé.
Oui.
On se rappelle,
oui.
On le sait, à peine 2 heures de Montréal, 2h30 de selon où tu es parti. Eric Lindros, tu comprends? Non, attention, ça a toujours existé, ça, sauf que maintenant, on manque de recul un peu. Mario Lemieux, il restait assis au forum quand il a été repêché. Il n'était pas convaincu qu'il voulait aller à Pittsburgh. Alors, tu comprends? Ça, là, ça. Puis il y en a plein comme ça en coulisses. Que des agents vont dire pas sûr, je sais pas, puis on le sait pas. Fait que ça a toujours existé, sauf que ce qui est nouveau, c'est cette richesse allouée aux jeunes joueurs après à peine un an. Quand tu parles de 76 matchs, c'est même pas un an sur le nombre de matchs.
T'as raison.
Mais faut faire attention.
Mais je vois une
c'est
tendance.
Juste que les montants sont sont exorbitants, puis ouais. C'est correct, je le dis encore, l'offre et la demande. Regarde, dernièrement, là, on parlait de peut-être montrer à 34 ou 36 équipes dans la Ligue nationale de hockey. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec ça, là. Il y a des propriétaires qui se disent, non. Hey, il y a un revenu possible, là, il y a un profit en plus du prestige.
On fait tellement d'argent qu'on peut prendre le risque de retourner à Atlanta pour une troisième fois.
On va retourner à Atlanta, moi, je te le garantis. On va probablement
tu viens d'y aller à Atlanta, là. T'as-tu essayé de jaser de hockey avec une couple de personnes là-bas?
Non, mais c'est pas grave, c'est une ville de sport, Greg. Ils vont y aller. Je te le dis, moi. Ils vont y aller parce que maintenant, ils sont en train de 2 groupes, dont un groupe, là, M. Cross, là, qui est un milliardaire, qui est le groupe d'Anson Carter, qui, lui, l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui est aussi propriétaire d'une équipe dans la East Coast League à Atlanta. Ça, c'est 2 groupes, mais il y en a d'autres qui sont en contact avec National. Et eux autres, là, ils ont le bon plan. Nous autres, là, on va acheter, on a un terrain, on va construire un amphithéâtre avec un quartier autour, comme Truist Park. On va créer une expérience avec le bon leadership. Il y a presque 6 millions dans la région métropolitaine d'Atlanta. C'est une ville tendance de plus en plus de compagnies. Le bureau chef sont là-bas, Greg. Et il y a plein de gens qui y vont pour 1 semaine, 2 semaines parce qu'ils sont en formation de leur compagnie. C'est vraiment une ville super à découvrir. Ceci étant dit, moi, je pense qu'Atlanta retourne dans la Ligue nationale, c'est garanti, parce que Bettman, c'est un borné. Il va préférer aller à Atlanta et aller à Houston avant de revenir à Québec.
C'est ça reste pour un autre débat, mon cher ami. Mais oui, est-ce qu'Atlanta est une ville de sport? 1200%. Oui. Tu l'as vu avec le Truist Park, je l'ai vu avec le Mercedes-Benz Stadium qui était...
Oui.
Je pense que tu peux lancer une roche.
Greg, 67 000 personnes sont allées voir un match de MLS cette semaine, mercredi soir.
Ouais.
Oui, Messi pouvait peut-être jouer. Il est arrivé en deuxième mi-temps seulement. On le savait qu'il n'était pas partant. C'est une expérience, c'est la fête des estrades. Alors, c'est sûr que tu as beaucoup plus de monde que Montréal, mais oui, Atlanta, c'est une ville de sport, clairement.
Mais est-ce que c'est une ville de hockey, ça? Ça reste à démontrer.
Oui, mais est-ce que Vegas était une ville de hockey?
Et oui, mais donc, Vegas n'avait pas eu deux équipes comme Atlanta.
Ouais, Vegas n'avait pas deux prises contre eux,
oui,
autres,
mais,
par exemple.
Et je vous le répète.
Et Vegas est quand même une exception à la règle. Je pense pas que personne regardait ça. Il y en a probablement qui se disaient ça. Moi, j'étais convaincu que ça allait fonctionner, c'est sûr et certain. Combien de gens se disaient, je veux m'en aller à Vegas, passer quelques jours, aller suivre ton équipe, ne serait-ce que pour les fins de semaine. On se disait, peut-être que les matchs de semaine, ça va être un peu plus difficile, tu sais. L'organisation s'est mise à gagner rapidement. On s'est établi comme étant un top 3. C'est une des meilleures barns dans la Ligue nationale.
Et l'ALNH est arrivé en premier à Vegas aussi.
Là, maintenant, c'est une ville de sport, ça?
Ben oui.
Pas croyable.
Olivier. Là, t'as les Sharks de San Jose, mais t'avais Oakland à la Ligue nationale des années 70. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives à Kansas City. Moi, je vous le dis, Atlanta, si jamais 203, la troisième va être la bonne, parce que là, ils ont compris. La Ligue nationale a compris plein de choses. Est-ce que Nashville était une ville de hockey? Nashville est devenue une ville de hockey parce qu'ils ont créé un engouement, ils ont créé une expérience.
Puis pas à peu près, là. Je vous le dis, si vous n'êtes pas allé au Bridgestone Arena, dépêchez-vous. Mettez ça sur votre liste, là.
Exact.
Là. Quelle ville exceptionnelle et quelle aréna exceptionnelle aussi. Éric, avant qu'on se laisse, tu sais que je vais... qu'est-ce que tu vas surveiller aujourd'hui dans la NFL? Moi, je vais surveiller qui sera ma prochaine équipe ou mon flirt de la saison.
Là, Greg Langto, là, comme j'ai dit à mon gars, si tu quittes les Ravens, tu n'as plus le droit d'y revenir. Mon gars, là, quand il était jeune, parce que j'étais partisan des Steelers, Puis là, les Steelers ont eu quelques années où il se faisait, il était, disons, médiocre. Là, il a dit, je vais prendre pour les Lions, t'as plus le droit de revenir, là. T'as plus le droit de revenir. Si tu quittes les Ravens, tu reviens plus. Parce qu'à ton âge, t'es pas un jeune de 18 ans, là. C'est à ton âge que tu quittes. Ton allégeance et ta loyauté envers les Ravens, ou peu importe l'équipe, t'as plus le droit de revenir, là, après deux matchs. Tu me fais honte.
Wow. Là, ça fait 24 ans que je suis fan de cette équipe-là, mon Éric.
OK, puis là, dès ça, après deux matchs, puis parce que t'aimes pas l'instructeur, il y a quelques années, Tomlin, la façon qu'il gérait Roethlisberger, j'aimais pas ça. J'aurais aimé que Roethlisberger se retire un an ou deux avant, mais c'était pas une raison pour quitter mon allégeance pour les Steelers de Pittsburgh. Là, tu vas arrêter ça, là. C'est de l'enfantillage.
Si t'avais eu un flirt dans cette saison-là, je te l'aurais pardonné, par exemple.
Un flirt.
T'es
pourquoi? Pas un gars de flirt, toi.
Pourquoi?
T'es un gars de loyauté. Arrête.
Oui, je sais, j'étais un gars. J'en ai parlé avec Ben Roger hier. J'étais un gars loyal envers mes amis, surtout ma femme qui écoute. Mon amour, je te le jure. Mais dans la Ligue nationale de hockey, même si j'ai une allégeance avec une équipe, j'ai le droit d'aimer plusieurs autres organisations.
Oui, c'est pas pareil.
Même chose. Oh, ben, pourquoi c'est pas pareil? Explique-moi ça. Au baseball, j'en ai une équipe et ça m'est arrivé d'en avoir d'autres.
Tu viens de dire, moi, les Steelers, mais il y a des années là où je dis les Lions sont intéressants, j'aime bien les Lions, tu comprends? Je déteste année après année les Cowboys de Dallas. Ça, c'est... J'ai détesté longtemps les Patriots jusqu'à temps que je me présente à leur camp d'entraînement pendant quelques années. Et là, j'ai découvert un Belichick complètement différent. J'ai découvert une culture d'entreprise complètement différente de ce qu'on avait comme perception. Puis j'ai dit, les Patriots m'intéressent quand les Steelers sont pas là, mais c'est pas un flirt, ça. C'est juste, je suis curieux, je veux voir leur match. Si les Steelers peuvent pas gagner, ben je vais regarder leur match. Là, tu parles, quelle va être ma prochaine équipe? Honte à toi, Greg Langto.
OK, je vais changer ça, Éric.
Oui.
Même ma blonde, il m'a texté, elle dit, Éric, te ramasses, puis pas à peu près.
Non, mais
tout le monde sur la messagerie texte.
T'es fatigué.
Qui sera
un marathon à courir tantôt.
Oui.
Je comprends tout ça. Mais hey, ça va être le match à regarder en passant aujourd'hui, là. Tom Brady sur Fox, ou si vous le regardez sur RDS aussi, je sais pas si RDS le présente, mais les Ravens et les Cowboys, deux carabières, ça va être intéressant, ça.
Les Cowboys vont gagner. Je te le dis, les Cowboys vont gagner. Et les Ravens.
Ah, on disait ça contre les Saints de la Nouvelle-Orléans.
Les Ravens vont être... Non, mais là, les Ravens sont favoris pour l'emporter, mais moi, j'ai pris les Cowboys quand même. Cela étant dit, je vais changer ma question, Éric, et je vais surtout mieux l'articuler. Qui sera mon... Convainquez-moi que votre équipe soit mon flirt cette saison. C'est correct, ça? Vas-tu m'aimer, c'est ça?
Les Texans de Houston, si je choisis, c'est vraiment intéressant.
Non, donne-moi pas des équipes. Fais juste me dire, si je fais ça, je suis encore ton ami.
Oui.
Formidable.
Oui. Oui. Mais tu sais, on a le droit de dire à nos amis ce qu'on pense, puis ça reste nos amis pareils, là.
J'espère.
Ben oui. Puis, tu sais, moi, les Ravens, c'est pas une équipe que j'aime, là.
Non, non.
Mais, ça, j'ai pas aimé John Harbaugh quand il a déclaré il y a quelques semaines que, selon lui, Lamar Jackson va être le meilleur carrière de tous les temps dans la Ligue nationale de football. C'était une affirmation ridicule.
Effectivement. On est d'accord.
On est d'accord.
On est d'accord. Bon. T'apprécies beaucoup, Eric. Merci d'être là.
Ben, c'est ça. Mais l'équipe que tu veux pas prendre présentement, c'est les Panthers de la Caroline. C'est dysfonctionnel. David Tepper, c'est un des pires propriétaires de tout sport confondu. Écoute, je lisais un article, là. Il est allé chercher David Canales, qui était un instructeur intéressant au niveau coordonnateur offensif, qui a fait du bon travail avec Mayfield, qui a fait du bon travail avec Geno Smith. Mais personne ne le voulait en entrevue. Puis lui, il est allé chercher ce gars-là.
Ouais, ça, écoute, c'est la semaine prochaine, je pense, on pourrait conserver une intervention complète juste sur le nombre de mauvaises décisions que les Panthers de la Caroline ont faites. Et ça, non seulement l'entraîneur-chef, l'autre d'avant également, aussi malheureusement Bryce Young qui est pris dans tout ça. Mais Eric, on se laisse là-dessus. Merci de m'avoir donné une varlope à matin.
Ben écoute, on se texte en fin de journée parce que c'est à 4h20. Après le tailgate, juste avant, les Ravens contre les Cowboys de Dallas. C'est le match à regarder. Et
je sais pas ce qui va être plus souffrant entre courir mon demi-marathon ou regarder mes Ravens perdre encore. Mais ça, on s'en reparle, mon Eric.
On s'en reparle.
Salut, mon chum.
Et la foi, Greg, et la foi. Moi, je pense que les Ravens vont l'emporter aujourd'hui. On s'en reparle en soirée.
Salut, mon beau.
Je t'aime. Je t'aime.
Moi aussi.
Bye, Olivier. Bye.
Salut, bye. Hey, j'en ai mangé une sincère, là. Je pense qu'on va prendre un petit
c'est
deux
pas
minutes.
Fini, hein? Je pense que tu vas continuer d'en manger une sincère tant que tu te mets dans cette position-là.
Convainquez-moi de flirter avec votre équipe pour la saison. Je vous le dis, on finit le show, là. Si vous m'avez convaincu, j'ai déjà quelques petits prospects qui m'intéressent. Je m'achète un jersey de votre équipe, là. C'est pas des farces, là. Est-ce que je pourrais jamais changer? Dans la NFL, quand c'est de même, quand t'as ton équipe, t'as ton équipe.
Ben, je viens de réaliser ça, mais tu parles depuis tantôt et t'as un chandail des Ravens sur le dos, Greg.
Oui, pour me convaincre de pourquoi je suis tombé en amour avec cette équipe-là.
Je suis vraiment mélangé en ce moment.
Ray Lewis, le numéro 52. Électrisant. Tu l'as pas vu jouer, hein, toi?
En fin de carrière, là. Quand ils ont gagné le Super Bowl,
quand il a gagné le Super Bowl sur un seul triceps, hein?
Ouais.
Tu sais qu'il était encore blessé, il était pas du tout apte à recommencer à jouer. Et quand il est revenu pour les séries, qu'il a dit à son équipe, pour les éliminatoires, qu'il a dit à son équipe, aujourd'hui, je me suis adressé à mon équipe et j'ai dit, this is going to be my last ride. Il était pas pantoute prêt à jouer. Il avait tellement mal avant le Super Bowl, là, qu'il avait délacé ses souliers puis il s'était attaché le bras à son ventilateur du plafond pour réussir à essayer de dormir avec son bras dans les airs. Ils ont gagné le Super Bowl cette année-là.
Ça, c'est un vrai.
Ray Lewis, c'est un vrai. Ça, c'est sûr. On va aller prendre deux minutes pour essayer de récupérer de cette varlope-là qu'Éric Auziel m'a donnée, mon très bon ami Éric Auziel, la voix de la sagesse. On revient, on va jaser du Canadien. Et parlant de jersey, là, les nouveaux jerseys de Fanatics, il y a pas mal de prix et d'options différentes. 625$ pour un jersey, on en parle, ce sera pas trop long.